France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Margot Delpierre.
Bonjour à tous. C'est une immense victoire, selon les mots de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a annoncé hier soir avoir remporté la primaire de son parti, le Likoud. Il conduira donc de nouveau les législatives au mois de mars. Bibi, comme on le surnomme, a obtenu 72,5% des voix. Son rival Gideon Saar, 27,5%. Il a reconnu sa défaite et précisé, je cite, « Ceux qui ne veulent pas prendre de risques ne gagneront jamais ». Benjamin Netanyahou, inculpé dans 3 affaires pour corruption, fraude et abus de confiance, était favori. Le taux de participation était d'un peu moins de 50%. Nous y reviendrons dans le journal de 7h d'Olivia Cohen. Alors que le Sahel est visé par des assauts de plus en plus audacieux de groupes islamistes, mercredi, 14 militaires ont été tués dans une attaque de terroristes lourdement armés dans l'ouest du Niger, d'après les autorités locales. On l'a appris seulement hier soir. Un convoi a été victime d'une embuscade, selon le communiqué. C'est dans cette même région que 71 soldats nigériens ont été tués le 10 décembre. Un peu plus au sud, en République centrafricaine, au moins 30 personnes sont mortes hier et avant-hier dans de nouveaux affrontements entre miliciens et commerçants dans un quartier majoritairement musulman de Bangui, devenu l'une des zones les plus dangereuses de la capitale centrafricaine depuis 2014. La gauche doit se rassembler ce matin à Gare de Lyon à Paris pour soutenir les cheminots mobilisés contre la réforme des retraites. Ils font grève depuis le 5 décembre pour dénoncer ce projet du gouvernement qui prévoit l'instauration d'un régime universel par points. Hier matin, le taux de grévistes à la SNCF était légèrement en baisse pour s'établir à 9,6% selon la direction. Environ 42% des conducteurs ont cessé le travail. Aujourd'hui, rebelote sur les rails, trafic toujours perturbé au 23e jour du conflit social. 6 TGV sur 10 circulent, 1 Transilien sur 5, 4 TER sur 10. À Paris, 5 lignes de métro sont totalement fermées selon la RATP.
Des histoires du réel, sur France Culture, chaque week-end, une histoire particulière. Christine Bernard.
Il porte un imperméable élimé, fume le cigare, roule en Peugeot 403, possède un chien improbable et une femme que l'on ne voit jamais. Et sa phrase signature, c'est « Mais juste une dernière chose ». Vous avez deviné ? Le lieutenant Colombo, policier de la brigade criminelle de Los Angeles, ce week-end, c'est la star.
Les 50 ans d'un anti-héros de génie, Colombo, récit documentaire en 2 parties, ce samedi et ce dimanche à 13h30 et sur franceculture.fr.
Le concours de recrutement pour la maîtrise de Radio France est ouvert. Vous avez entre 9 et 15 ans ? Vous aimez chanter ? Rejoignez la maîtrise de Radio France. Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2020 en téléchargeant le dossier sur maisondelaradio.fr, rubrique recrutement des formations musicales.
Tout de suite, le réveil culturel avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le réveil culturel. L'actualité de la pop culture, c'est très tôt le matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast en quelques clics à partir de franceculture.fr. Corinne Amar et Cyril Marchand à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, comme tous les jours, avec ce matin la prise de son, Pierre Monteil. Et tous les vendredis, c'est l'actu BD. Aujourd'hui, mon invité est Alfred pour sa dernière bande dessinée publiée par Delcourt, intitulée Senso. C'est une comédie romantique douce-amère qui se déroule une nuit d'été dans un beau et grand parc abandonné. Un homme et une femme, plus très jeunes d'ailleurs, vont peut-être se retrouver quelque part dans le sud de l'Italie.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Alfred.
Bonjour.
6 ans après votre grand récit, Come Prima, très très justement primé d'ailleurs au Festival d'Angoulême, Fauve d'or du meilleur album, où vous évoquiez déjà l'Italie de vos racines, le poids de la mémoire familiale. Donc vous revenez avec Senso, votre dernier album, encore en Italie, mais cette fois c'est une histoire d'amour, ou plutôt une rencontre amoureuse dans un beau décor, un palace Decati perdu dans un immense parc abandonné. On reviendra plus tard sur les décors somptueux, sur votre goût de dessiner la nature, la végétation et les animaux entre réalisme et onirisme, toujours en faisant d'ailleurs ressentir la nature au plus près, comme ces arbres qui dansent sous un ciel orageux d'été, c'est vraiment très beau, on y reviendra. Mais s'il fallait d'abord présenter les deux protagonistes de votre histoire, de cette rencontre amoureuse, Germano et Elena. Ils ont quel âge? Entre 40 et 50 ans?
Oui, je dirais qu'ils sont dans cette décade-là, oui, effectivement, oui.
Alors, ils sont ni jeunes, ni beaux, mais on va finir par les aimer.
J'espère. En tout cas, c'est des gens normaux. En tout cas, je sais pas s'ils sont particulièrement beaux ou vieux ou quoi, mais en tout cas, j'avais envie que ce soit des gens normaux qui soient au centre de cette histoire-là. Et j'avais surtout envie que ce soit des personnages qui arrivent à un moment de leur vie, voilà, où il y a déjà un vécu, il y a déjà des choses, ils ont déjà bifurqué plusieurs fois dans leur vie avant, et ils se rencontrent à un moment où l'un et l'autre, pour des raisons différentes, ont la sensation d'être un peu à l'arrêt, d'être à un moment de leur vie où les choses patinent un peu, ils sont un peu à la dérive, et leur rencontre au milieu de ce grand parc, dans cette fête de mariage à laquelle ils n'avaient pas grand-chose à faire au départ, va leur permettre de s'accrocher un peu l'un à l'autre, et pourquoi pas peut-être de réactiver les choses qui étaient à l'arrêt.
Voilà, il vous ressemble Germano ou vous êtes plutôt Elena? Parce que plus Germano est passif, il se laisse vraiment guider par la passion d'Elena. Et Elena d'ailleurs, elle n'est pas très sûre de ce qu'elle fait. Comme si c'était une nuit particulière, comme si c'était une parenthèse dans la vie de ces deux personnages.
Alors moi, je me faufile toujours à l'intérieur de tous les personnages d'un récit. Alors celui-ci n'est pas un récit choral, mais il y a quand même une petite huitaine, on va dire, de personnages qui se renvoient la balle de l'histoire. Et j'ai toujours tendance, alors particulièrement dans les deux personnages principaux, autant Germano qu'Elena, je m'immisce à l'intérieur de leurs propos, à l'intérieur de leur vie. Je me brouille moi-même les pistes un peu, même par moments, mais j'ai besoin d'avoir la sensation que les deux personnages me permettent de raconter des choses qui me sont très personnelles.
Diriez-vous que c'est une romance, cette histoire?
Alors, je sais pas comment la définir, mais vous avez dit tout à l'heure une comédie romantique.
Amère.
Ouais, je trouve ça très juste. Ouais, il y a quelque chose. C'était l'envie de raconter une histoire, l'histoire d'une rencontre. J'avais vraiment en tête ce souhait-là, raconter une de ces rencontres, comme on peut tous en faire dans une vie, qui, à un moment de notre vie, donc, va imperceptiblement faire bifurquer nos trajectoires. Mmh. C'est pas forcément spectaculaire, mais en tous les cas, il se passe quelque chose qui fait que notre vie sera plus du tout la même juste après. Et là, en l'occurrence, c'était un peu par le prisme d'une sorte de romance, ouais.
Justement, pour avoir le luxe de cette romance, c'est ce que j'ai vraiment particulièrement aimé dans Senso, c'est que vos personnages, qui sont au début très réalistes, ils vont accepter le jeu de se mentir un peu.
Ouais, de jouer la comédie.
De jouer la comédie.
Parce que j'avais envie que ça ait quelque chose d'un peu théâtral. Parce que ce livre, c'est presque même, je l'ai construit comme une suite de scénettes théâtrales aussi, même le décor, mais ça on en parlera peut-être après. Et très spontanément, l'idée de leur faire mettre régulièrement des masques, en tout cas de jouer eux-mêmes, de pas être dupes de ce qu'ils sont en train de faire, mais de jouer avec quelques clichés du théâtre, me semblait naturel pour ce récit-là. Ouais.
Quand elle le prend seule, enfin, dans un parc, Elena dit ceci à Germano. C'est plus joli si on se ment un peu ce soir, non? Et lui, il comprend pas, il dit, ah oui. Ça nous servirait à quoi que je vous dise qu'il y a 10 ans que je n'ai plus réussi une seule histoire d'amour avec un homme et que je ne suis même plus certain d'en être capable? De dire que le temps qui passe me terrifie et que ce que je vois dans le miroir n'est pas là pour me rassurer. Que j'ai chaque jour un peu plus la même peau que ma mère. La nuit, il m'arrive d'avoir des angoisses effroyables. Je me réveille tétanisé, un lapin pris dans les phares, consciente d'un danger, mais incapable de bouger. Je mets des heures à me calmer. Et pendant ce temps-là, c'est-à-dire pendant qu'elle dit tout ça, la romance s'installe.
Il s'approche, il se rapproche.
Ouais, il se rapproche, ouais.
J'aimais bien l'idée là de jouer pour cette séquence-là, justement, sur le fait que c'est des gens qui ont un certain âge, en tout cas qui ont déjà eu une vie, donc ils sont pas en train de se mentir. Effectivement, ils savent très très bien ce qui se passe entre eux. Ils ont envie d'être surpris par ce qui se passe entre eux. Et le fait qu'elles disent on va pas se mentir, Enfin, on va se mentir justement,
oui, parce que
on va se mentir un peu, parce que si on se dit la vérité tout de suite, c'est quand même dommage, ça abîmera un peu ce moment. Ça nous fait du bien d'avoir la sensation de découvrir quelque chose qu'on connaît en fait par cœur. La rencontre, on en a déjà tous vécu. Les deux personnages en ont déjà vécu plusieurs dans leur vie. Mais si on se ment un petit peu, ça nous donnera la sensation de vivre quelque chose d'extraordinaire.
Et ça, c'est aussi la définition de la fiction.
Exactement, ouais. Enfin, en tous les cas, moi, je joue beaucoup, quand j'écris les livres que je fais seul, je joue beaucoup sur des carnets remplis de choses vraies, de souvenirs, de vécu, de tout un tas d'éléments qui
me concernent. Vous avez dit vécu.
J'ai dit vécu. De tout un tas d'éléments, en tout cas, qui me sont très personnels, qui sont souvent vécus, et puis je transforme, que je tricote les uns avec les autres pour en faire une fiction qui me soit très personnelle, mais en faire une fiction, prendre un pas de recul quand même.
Alors pourquoi ils sont isolés au beau milieu de ce parc, quelque part dans le sud de l'Italie, vos personnages, et surtout entourés de personnages assez pittoresques, hein, parce qu'il y a un mariage en fait, elle voulait pas venir à ce mariage, lui il avait absolument rien à faire ici, il s'est juste trompé de date, il s'est retrouvé dans un hôtel complet pour cause de mariage, il se trouve que c'est son ami qui organise ce mariage, donc il y a les hasards de la vie, les vicissitudes de la vie au milieu de ce rapprochement d'un homme et d'une femme.
Pourquoi les isoler comme ça? C'était, encore une fois, j'emploie souvent le mot jouer parce que j'ai l'impression, mon dessin vient vraiment du théâtre au départ, quand j'étais gamin.
Et que vous voyez vos parents
mes
jouer.
Mes parents comédiens, ouais. Effectivement, quand j'avais 5-6 ans, mes premières bandes dessinées, c'est moi en train de redessiner ce qu'ils sont en train de jouer sur scène. J'ai du coup toujours gardé un rapport au théâtre, par rapport à la bande dessinée, mais un rapport au jeu surtout. Donc l'idée là de créer au sein de ce huis clos, donc un hôtel avec un grand parc et un mariage, il y a de la foule, donc c'est un grand mariage, ils sont plus d'une centaine d'invités.
La nuit a beau être interminable, c'est une nuit d'été.
Exactement, mais du coup, oui, on a l'impression effectivement que la nuit est comme ça le fait, hein, d'ailleurs, quand on traverse une nuit un peu particulière, on a souvent l'impression d'avoir fait un voyage bien plus vaste que la poignée d'heures qu'on a en fait, qu'on vient de vivre. Mais là, du coup, trouver le moyen d'isoler ces deux personnages dans un endroit où il est a priori impossible de s'isoler parce qu'il y a des invités partout, que il y a un bazar pas croyable dans cet hôtel, c'était aussi presque limite, moi, jouer avec une contrainte. Comment je vais réussir à faire en sorte qu'il se retrouve seul au monde au milieu d'un mariage dont il est quasi impossible de s'échapper?
Pourquoi ça s'appelle Senso, vous, l'italien? Vous allez nous dire ce que ça veut dire, Senso.
Senso, il y avait plusieurs raisons. La première, c'est d'abord, j'aime le son de ce mot, la sensualité que dégage le mot Senso.
Mais après, littéralement, ça veut dire
littéralement, ça veut dire le sens. C'est le sens. Alors là, en l'occurrence, dans ce récit-là, c'était le sens de la vie, le sens qu'on donne aux choses, le sens qui donne au moment, le sens dans lequel ils savent plus trop vers lequel aller dans leur vie et puis qui va peut-être, justement, reprendre du sens après leur rencontre. Et puis, au pluriel, Isensi sont l'essence. L'essence, il y a quelque chose, voilà, les émotions, ce qu'on ressent. Donc tout ça, voilà, cet amalgame de raisons faisait que ce mot-là, qui s'est imposé en cours de réalisation d'ailleurs du livre, à un moment s'est imposé et j'en ai pu changer.
Tout en sachant que c'est le titre d'un film, d'un des classiques de Visconti.
Exactement, et alors d'autant plus, j'ai eu d'autant plus de facilité à me l'approprier que c'est un des rares que je n'ai pas vu.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Però, Catenazzo, che donna sei. Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito, troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposte a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare, poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio la presi tra la gente, perciò bambine, se sono qui per te stasera è una fortuna.
Amore, lo chiama amore.
Un homme et une femme, tous les deux déjà pas mal marqués par les vicissitudes de la vie, déambulent dans un immense parc. C'est une nuit d'été italienne qui n'en finit pas. C'est peut-être une histoire d'amour qui commence. C'est en tout cas un récit charnel, Senso d'Alfred, édité par Delcourt. Votre dernière bande dessinée, Alfred, quand je dis que c'est un récit charnel, c'est que c'est d'emblée un récit charnel, puisque vous commencez par des images d'amour d'un couple qui fait l'amour, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec les deux personnages principaux, mais cette histoire de corps qui s'aiment, qui sont en fusion, on va la retrouver au début, au milieu et à la fin de votre récit. Pourquoi ?
Alors, c'est exactement bon mot quand vous dites charnel, parce que c'est le mot que j'avais en tête avant même de me plonger dans ce livre. J'avais envie d'évoquer quelque chose qui aille dans ce sens-là. Et du coup, spontanément, la première scène que j'ai dessinée, sans savoir encore ce qu'elle deviendrait dans le livre, sans savoir quel sens elle aurait pour le livre, c'était ce couple en train de faire l'amour. Je voulais même que dans le livre, cette scène arrive avant n'importe quelle page de titre ou quoi que ce soit. On rentre dans le livre par ce couple muet en train de faire l'amour. C'était pour moi l'envie de donner au lecteur une direction, une intention, une note, donner la note du récit. On ne sait pas encore de quoi il va s'agir, mais vous rentrez dans le récit par quelque chose de très sensuel et de très charnel. Et dans un coin de la tête, en tout cas, je me dis, ou j'espère en tout cas, dans un coin de la tête, ça reste. Et puis on se balade tout au long du récit avec ça, cette intention-là, dans un coin de tête.
Est-ce qu'ils vont se retrouver ? Est-ce qu'ils vont s'aimer comme ce couple qui fait l'amour, par exemple ?
Ça, c'est à eux qu'il faudrait le demander. Ça, c'est, j'arrête le récit au moment où ça sera à eux de décider. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Moi, quand je compose un de mes livres, je l'improvise à mesure que le livre se fait. Je veux découvrir l'histoire en même temps que les personnages. Je veux pas en savoir trop à l'avance. Et il y a toujours un moment où je sens que la suite ne me concerne plus. La suite appartient au personnage, et en l'occurrence, là, c'est le cas. J'ai arrêté le livre au moment où j'ai estimé que en dire plus, c'était en dire trop.
Alors, c'est un petit Éden que vous dessinez, ce parc abandonné d'une beauté incroyable. On a l'impression, Alfred, que là, vous avez pris aussi tout le plaisir à représenter la nature, la verdure.
Ouais, c'était aussi
les animaux, les insectes, ouais. Mais tout, comme si c'était que ça faisait partie aussi du rapport charnel qu'on peut avoir avec la vie.
C'est même clairement un des personnages principaux du récit, ce parc, et c'était également une des envies. En fait, j'entre dans un livre avec quelques envies, quelques intentions qui me guident tout du long, près du récit. Il y avait celle de raconter une rencontre, comme je le disais, et puis il y avait celle de représenter la nature, de lui donner une place vivante dans le récit. Le parc, en l'occurrence, on n'en comprend pas trop ni les frontières ni les limites. Il a l'air de grandir à mesure que la nuit avance, à mesure que le désir entre les personnages grandit également. On ne sait pas trop quels en sont les contours.
Et pourquoi il y a autant de statues, autant de chefs-d'œuvre déposés là, dans ce parc qui semble de toute évidence abandonné?
Parce que j'avais envie de donner cette impression des siècles d'histoire sont passés par là. En tout cas, que le parc est bien plus ancien. J'avais envie qu'on ne comprenne pas comment il était arrivé là, d'où il venait ce parc. Il y a effectivement des statues contemporaines d'un côté, bien plus classiques de l'autre. On ne sait pas trop depuis combien de temps il est là. Et au final, ça fait une espèce de mélange qui ressemble tout bêtement à la vie. On est composé des choses qui nous précèdent et on fabrique celles qui arrivent derrière.
Avec ce tourbillon d'oiseaux que vous dessinez, qui dansent dans le ciel, c'est
les étourneaux.
C'est les étourneaux, les arbres qui dansent carrément parce que c'est une nuit d'été menacée par un orage qui on ne sait pas s'il va éclater ou pas. Et ça fait partie aussi d'ailleurs de la dramaturgie de cette histoire.
Est-ce que l'orage va craquer?
Ouais.
Le parc, comme à chaque fois que je dessine l'Italie que je dessine, moi, c'est une Italie théâtralisée. On m'a souvent demandé, que ce soit pour comme Prima ou que ce soit pour celui-ci, où était exactement situé l'endroit que je dessinais. En réalité, ce sont des endroits que je recompose à partir des différents endroits dans lesquels j'ai vécu en Italie, des différents endroits dans lesquels j'ai des souvenirs forts. Donc, tous les éléments sont vrais. Ils existent tous, mais je les recompose ensemble pour recréer une Italie théâtralisée, pour recréer mon Italie. Le parc, il est composé de trois ou quatre parcs dans lesquels, depuis l'enfance, j'ai l'habitude de me perdre et de jouer en Italie, que ce soit la Villa Rocca du côté de Chiavari, qui est l'endroit d'où vient ma famille, que ce soit le jardin botanique de Naples, dans lequel j'ai passé énormément de temps, que ce soit des parcs cachés à Venise, où ma fille a grandi. Je recompose un décor. Encore une fois, je crée un décor à partir d'éléments qui me sont chères et qui sont authentiques.
Et quand je dis vous voulez faire ressentir cette nature Alfred, comment vous vous posez cette question de représenter par le dessin quelque chose qui bouge, qui évolue
Là, c'était, j'allais dire presque bêtement, techniquement, l'idée était de ne rien m'interdire comme outil. Du coup, de me dire qu'est-ce que là j'ai envie de raconter, qu'est-ce que j'ai envie que là le décor raconte, et de choisir des outils qui pouvaient être passer du mouchoir à l'éponge, en passant par le pinceau, de l'encre à de l'aquarelle, de mélanger tout un tas de choses qui me permettaient d'essayer de traduire de manière sensuelle, en tout cas, ce que me procurent ces parcs et ces jardins dans lesquels j'aime, moi, à titre personnel, beaucoup me balader. Chaque fois que j'arrive dans un endroit, dans un pays nouveau, une des premières choses que je cherche, c'est le jardin public et je vais y passer du temps à dessiner.
Alors, quand je parle de mouvements, de vent qui se lève, d'insectes qui apparaissent en gros plan, des arbres dessinés dans toute leur hauteur, on a l'impression que vous allez utiliser un cadrage complètement différent. Mais il se trouve que non, Alfred, vous n'avez jamais été aussi classique. C'est vraiment les 6 cases par album. C'est à l'intérieur des cases où vous essayez effectivement de faire ressentir tous les mouvements de cette histoire.
Alors, il y avait cette intention également, encore une fois, d'être classique dans la forme. Je ne suis pas, donc j'ai raison, mais je ne me suis jamais considéré comme un dessinateur virtuose. Du coup, je sais que moi, je dois composer avec des éléments simples. Je dois trouver la manière de composer presque avec mes limites pour en raconter le plus possible. Moi, réduire une page à ce qu'on appelle un gaufrier, c'est-à-dire 6 cases identiques dans une page, c'est limite une manière pour moi de recréer une petite scène de théâtre, encore une fois, et à l'intérieur de m'autoriser tout ce que je peux ou ce que je veux. Mais de pas chercher, essayer d'être le plus possible dans mes cadrages à hauteur d'homme. Auteur humaine, c'est les personnages qui portent l'histoire. Un récit comme ça, en réalité, le fil de l'histoire, il tient en deux mots. Par contre, j'espère que parce que les personnages apporteront, le récit se construira et sera lui surprenant et me surprendra en tous les cas.
Vous l'avez dit, Alfred, le décor est un personnage, il est très important. Il y a cette histoire d'amour entre Germano et Elena et pourtant votre trait va nous faire passer à partir du sentiment amoureux, mais surtout à partir de la nature, du dessin réaliste à un dessin complètement onirique.
J'ai toujours essayé de faire en sorte, alors ça c'est très certainement justement ma non-formation de dessin, le fait que je sois autodidacte, j'ai toujours transgressé les règles puisque j'en ai aucune, et je me suis toujours autorisé dans un même récit à faire varier mon dessin en fonction de ce que je voulais qu'une séquence raconte et dise au lecteur. Ça me pose aucun souci d'une page sur l'autre, de changer d'outil, de changer même de manière de tenir mes outils, s'il faut que ce soit, pour être au plus près en tout cas de ce que je veux transmettre.
Alors revenons aux personnages. On a failli les oublier, Germano et Elena. Alors Germano, pourquoi il était venu ici dans ce coin perdu de l'Italie? On peut le dire maintenant. Il est venu avec une semaine de retard.
Il vient avec une semaine de retard à ce qui était censé être effectivement le vernissage de l'exposition de photos de sa fille. Il vient, voilà, ça c'était une manière pour moi d'en dire tout de suite, de donner une information sur le personnage. Visiblement il est coutumier du fait, il est toujours un peu à côté de la plaque, il est toujours un peu à la dérive, et là il se trompe carrément d'une semaine sur un rendez-vous important.
Important pourquoi? On le rappelle, c'est très important.
Important pour lui, important parce que sa fille devait faire effectivement avec vernissage d'une exposition auquel elle attendait, enfin espérait qu'il soit là. Il s'avère voilà qu'il se trompe et qu'il n'est pas là le jour. Il arrive une semaine trop tard.
Alors on vous raconte pas bien sûr l'histoire comment elle finit entre Elena et Germano, mais tout ce qu'on peut vous dire c'est que Germano finit par aller voir l'exposition photo de sa fille, et pour vous Alfred, c'est une nouvelle manière de traiter le dessin, de la représentation dans une histoire.
Ouais, là encore, jouer avec ce que j'ai envie de raconter. Donc, ils vont passer un moment à errer dans cette exposition, finalement. Et il me semblait naturel de tout simplement graphiquement traiter les photos d'une manière différente que le reste du récit. Toujours créer des ruptures, quoi, pour que les personnages se retrouvent eux-mêmes confrontés à différents éléments,
ouais. Ouais, alors qu'est-ce que vous avez utilisé par exemple pour la représentation des photos de la fille du personnage central de votre bande dessinée Senso?
En l'occurrence, là, ce sont des feutres. J'ai dessiné avec des feutres que j'ai mélangés entre eux, sur lesquels je suis revenu avec très certainement un peu d'acrylique. En tout cas, je crée. J'aime bien ça. Après,
pas de calque
Et du calque, ouais, exactement, sur ouais. Du calque, ouais.
Però, catenazzo che donna sei, io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta nel mio letto ci scommetto figli come un vaporetto. Perciò bambina, se sono qui per te stasera è una fortuna.
Est-ce que les personnages renvoient à des gens que vous avez rencontrés, croisés dans votre vie, Alfred ?
Ouais, toujours. Je m'inspire toujours. Encore une fois, je pioche dans ces carnets que je remplis un peu quotidiennement. On est tous bombardés en permanence d'informations chaque jour. Et moi, j'ai tendance à avoir besoin de m'en délester dans ces carnets-là. Je veux pas m'en débarrasser, donc je les mets dans ce que j'appelle ces sortes de, pas de vide poche, mais de vide tête. Et c'est là-dedans que je pioche après mes récits. Donc, il y a toujours une phrase entendue par quelqu'un, par un ami ou une personne inconnue. Il va y avoir une histoire qu'on m'a racontée, il va y avoir une histoire que j'ai vécue. Donc, tous les personnages de ce récit-là, je les ai, à un moment ou l'autre, par petits morceaux entre différentes personnes, certainement, je les ai croisés, plus ce que je vais mettre de moi-même dans chacun d'entre eux.
C'est bien de préciser que c'est un récit contemporain, parce que, bon, effectivement, l'histoire d'amour, c'est une histoire d'amour de tous les temps, de tous les univers, on peut le dire, un homme rencontre une femme, mais il se trouve que cet homme, Germano, va finir par raconter un peu sa vie, et c'est vraiment le grand exclu des temps modernes.
Oui, voilà, oui, alors ça, là, c'est peut-être un des trucs qui me ressemble le plus dans son personnage. Effectivement, il n'y a aucun réseau, social de quelque nature que ce soit, il est un peu déconnecté de la marche du monde.
Et il fait quoi?
C'est quelqu'un qui a pas de portable, qui a pas internet, qui sait même pas vraiment comment ça marche, qui lui-même, il s'était lancé dans une entreprise de bio, mais qui va se faire bouffer par une entreprise qui va racheter son terrain pour en faire sa décharge. Donc c'est le seul moment où il va un peu se retrouver sur internet, c'est parce qu'il a voulu casser la gueule au type qui était venu avec beaucoup de cynisme lui racheter son terrain et se filmer par quelqu'un dans le coin. Il se retrouve, c'est le seul rapport qu'il a en fait à internet. Quoi.
Et c'est aussi le seul rapport que vous avez avec la politique d'aujourd'hui ou les crises politiques que vivent les gens aujourd'hui. Ça reste quand même en arrière-fond, Alfred.
Je ne peux pas faire autrement que de vivre dans le monde dans lequel je vis et d'y être évidemment sensible. Et donc, même si ça passe en sous-texte, même si je reste très distant, j'ai quand même besoin de raconter deux, trois petites choses personnelles là-dessus de ce que je pense. Oui.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Alfred Senso, sa dernière bande dessinée éditée chez Delcourt dans la collection Mirage. Merci d'être passé ce matin à nous en parler.
Oh, merci à vous, avec grand plaisir.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente la revue Tintin, c'est l'aventure, en vente actuellement en librairie et chez les marchands de journaux. Dans ce nouveau numéro, découvrez un grand reportage sur la montagne chère à Hergé et sur la spiritualité. Un entretien avec l'explorateur Jean-Louis Etienne et un dépli BD inédit de l'auteur Jacques Ferrandez. Partez à l'aventure avec Tintin et Géo, un partenariat France Culture. Chaque samedi sur France Culture, entrons dans une œuvre, une vie, Christine Bernard.
On l'appelait la reine de la soul. C'est l'une des plus grandes voix américaines de l'histoire. Tour à tour chanteuse de gospel, de jazz, de funk, de R&B, avec une carrière de près de 60 ans, Aretha Franklin demeure une artiste admirée et une référence pour la jeune génération américaine.
Aretha Franklin, pour que vous m'aimiez encore, une vie, une œuvre, ce samedi à 15h et sur franceculture.fr.
Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Instaurer un régime universel a-t-il encore un sens quand les dérogations se multiplient ? En pleine concertation sur la réforme des retraites, plusieurs professions ont obtenu ces derniers jours des garanties de la part du gouvernement, comme les hôtesses de l'air. Une nouvelle date à noter dans le calendrier, c'est le 1er avril et non plus le 1er janvier qu'entrera en vigueur la réforme des APL, les aides personnalisées au logement. Le général Gaït Salah est mort et enterré, mais les Algériens sont toujours en colère. Ils réclament un changement de régime. Une nouvelle manifestation se prépare. Que reproche-t-on à Flavio Bolsonaro? Le fils aîné du président brésilien fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds. Les précisions de notre correspondante au Brésil. Le collectif SOS Retraite confirme son appel à la grève glissante à partir du 3 janvier contre la réforme des retraites. Avocats, médecins, infirmiers libéraux sont appelés à fermer leur cabinet au moins une journée pendant cette période. Ils espèrent toujours conserver leurs régimes autonomes. Et les promesses faites cette semaine par le gouvernement aux pilotes, aux hôtesses de l'air, aux stewards leur donnent quelques espoirs, Sarah Lemoine.
La liste des exceptions au régime universel de retraite ne cesse de s'allonger. Pour éviter une grève massive dans le secteur aérien, le gouvernement a fait une nouvelle concession. Les pilotes, hôtesses et stewards affirment qu'ils vont pouvoir conserver leur régime de retraite complémentaire en parallèle du régime universel. Alors évidemment, cela redonne espoir aux professions libérales, avocats, médecins, infirmiers, qui militent de leur côté pour conserver leur caisse de retraite autonome. Christiane Ferralschul, la porte-parole du collectif SOS Retraite.
On constate qu'il y a beaucoup de dérogations. On a vu les policiers, puis les enseignants, puis les aides-soignants, puis les pilotes de ligne. Ça veut dire que le régime universel tel qu'il nous a été annoncé au départ est en train de progressivement conduire à des régimes spéciaux. Donc c'est toujours la même interrogation. Pourquoi nous contraindre à sortir de ce régime autonome alors qu'on voit autour de nous toute une série de régimes spécifiques se mettre en place ?
Le collectif SOS Retraite qui maintient donc son appel à la grève à partir du 3 janvier pour continuer de peser sur le gouvernement.
Sarah Lemoine. Et ce matin, un rassemblement de la gauche doit avoir lieu Gare de Lyon à Paris en soutien aux cheminots mobilisés contre cette réforme des retraites. Hier matin, le taux de grévistes à la SNCF était de 9,6% selon la direction du groupe public. Environ 42% des conducteurs et 24% des contrôleurs ont cessé le travail. Au 23e jour de ce conflit social, 6 TGV sur 10 circulent, 1 Transilien sur 5, 4 TER sur 10. À Paris, 5 lignes de métro sont totalement fermées selon la RATP. La plupart des bus circulent. La réforme des APL, les aides personnalisées au logement, devait entrer en vigueur le 1er janvier après avoir été déjà repoussée. Elle est à nouveau reportée au 1er avril. Cette réforme n'est pas remise en cause selon le ministre chargé du logement, Julien de Normandie. Elle est censée permettre une prise en compte plus rapide des hausses et baisses de revenus. C'est la Caisse nationale des affaires familiales qui a demandé ce report, Catherine Pétillon.
Attendre un meilleur niveau de sécurité et de fiabilité pour les allocataires, c'est ainsi que le ministre du Logement, Julien de Normandie, a justifié ce report. La réforme repose sur deux grands changements. Les aides au logement seront modulées en fonction des revenus des 12 derniers mois et leur montant sera révisé tous les 3 mois. Alors qu'actuellement, il dépend des revenus perçus 2 ans plus tôt et il est fixé en janvier pour toute l'année. Pour assurer ce futur calcul en temps réel, ceux qui versent les prestations, les caisses d'allocations familiales, doivent disposer d'un logiciel intégrant ces changements. Or, en l'état, le nouveau système n'a pas la fiabilité technique suffisante, explique le directeur de la CNAF. Mais sur le fond de la réforme, rien ne change, insiste le ministre du Logement. Le décret doit d'ailleurs être signé avant la fin du mois. Politiquement, c'est quand même un report de plus pour une réforme déjà retardée. Effet collatéral, cela permet au gouvernement d'éviter à court terme une nouvelle cause de protestation. Car repoussée ou pas, la réforme à venir n'est pas juste technique, alertent les associations. En effet, ces changements de calcul auront des conséquences conséquences sociales. Par exemple, les moins de 25 ans entrant dans la vie active avec un petit salaire perdront leur APL. Jusqu'ici, des dérogations leur permettaient de la garder provisoirement. Ceux-là ont donc quelques mois de répit jusqu'à avril, date à laquelle beaucoup des allocataires de l'aide au logement seront aussi concernés par une autre réforme, de nouvelles règles de l'assurance chômage.
Catherine Pétillon. 6h34, la suite du journal sur France Culture. De nombreux Algériens devraient encore descendre dans la rue aujourd'hui pour leur 45e manifestation hebdomadaire. Le mouvement anti-régime ne semble pas faiblir après la mort du puissant général Ahmed Gaïd Salah, enterré mercredi et qui s'était imposé en gardien du système au pouvoir face à la contestation populaire. Les manifestants réclament, comme depuis février, un changement de régime et la libération des détenus. Nadine Epstein.
Libérer tous les prisonniers d'opinion, pour une Algérie différente du passé. Par Dieu, on ne s'arrêtera pas. Lâches vous êtes, libérez nos enfants. Voilà quelques-uns des slogans qui chaque vendredi sont clamés dans Alger. 44 fois que le mouvement de contestation populaire défie le pouvoir algérien qui ne recourt pas à la force frontale, mais plutôt à des répressions et intimidations ciblées. 140 personnes sont détenues, dénoncent plusieurs ONG algériennes. Le scénario est maintenant rodé. Forces de sécurité, policiers, véhicules anti-émeutes, quadrilles, contrôles, barrent les routes qui mènent à la capitale. Ils procèdent à des arrestations arbitraires qui généralement frappent des chefs de file de la contestation ou des porteurs de drapeaux berbères. Une partie des manifestants condamnés à 6 mois de détention vient d'être relâchée, mais le nombre d'emprisonnements ne faiblit pas. En solidarité avec les prisonniers, les Algérois organisent un concert de casseroles nocturnes. Puis le matin, ils commencent à se rassembler et l'après-midi, les cortèges convergent vers le centre-ville. Le soir, les protestataires font le décompte des arrestations. Des individus en civil capturent des hommes et les retiennent en secret. Ce n'est qu'après plusieurs jours de silence que le lieu de détention et les charges retenues sont données à l'entourage des prisonniers.
Nadine Epstein. En Centrafrique, au moins 30 personnes sont mortes hier et avant-hier dans de nouveaux affrontements entre miliciens et commerçants dans un quartier majoritairement musulman de Bangui, devenu l'une des zones les plus dangereuses de la capitale centrafricaine depuis 2014. Mercredi, 14 militaires ont été tués dans une attaque de terroristes lourdement armés dans l'ouest du Niger. On l'a appris hier soir. Un convoi a été victime d'une embuscade, selon les autorités. C'est dans cette même région que 71 soldats nigériens ont été tués le 10 décembre dernier. C'est une affaire qui gêne le pouvoir brésilien. Le fils aîné du président et sénateur Flavio Bolsonaro est soupçonné de détournement de fonds et blanchiment. Ça tombe mal quand on sait que son père, Jair Bolsonaro, a été en partie élu sur sa lutte contre la corruption, Anne Vigna.
Le président brésilien a conclu son allocution de Noël par ces mots.
Nous terminons l'année 2019 sans aucune dénonciation de corruption.
Mais peu de Brésiliens ont été convaincus par cette affirmation. Car il y a bien eu un scandale de corruption pour la première année du mandat du président brésilien et ce dans sa propre famille. C'est son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro, qui fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Les enquêteurs estiment que Flavio Bolsonaro, quand il était député de l'État de Rio de Janeiro, détournait une partie, voire la totalité du salaire de ses assistants parlementaires à son profit. La police soupçonne que certains de ses assistants n'aient jamais travaillé pour Flavio tout en recevant bien un salaire. Parmi eux, les membres de la famille de la deuxième épouse de son père qui ont reçu la semaine dernière la visite de la police. Dans son cabinet, Flavio en avait embauché 9. Carlos, son frère, conseiller municipal de Rio depuis 18 ans, en avait lui employé 7, dont l'ex-femme de son père. Jair Bolsonaro, le président, avait lui 6 membres de sa belle-famille comme assistants au Parlement de Brasilia. Une pratique qui semble donc familiale, même si Flavio est pour l'instant le seul enquêté par la justice en 2019.
La correspondance d'Anne Vigna au Brésil. La semaine dernière, le président Bolsonaro a critiqué le parquet de Rio qui a fait, selon lui, un travail de cochon. Il l'accuse d'avoir donné des informations à la presse sur le contenu de l'enquête. Un séisme de magnitude 5,1 a secoué cette nuit le sud-ouest de l'Iran avec un épicentre à 45 km où se trouve une centrale nucléaire. Dans l'immédiat, aucun dégât n'a été constaté. Météo France maintient Aquitain. Aujourd'hui, la vigilance orange en Charente-Maritime, toujours pour des risques d'inondation. Le ciel sinon restera gris sur la plupart du pays avec parfois des averses, sauf dans le Midi et les Pyrénées, vous aurez du beau temps. Les températures maximales sont de 7 degrés à Strasbourg, 9 à Lille, 10 à Paris, 14 à Bordeaux et Nice et 16 degrés à Perpignan. 6h40 ou presque, c'est l'heure de retrouver Antoine Dulster pour les enjeux internationaux. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, la diplomatie française en question.
Oui, pour le cinquième et dernier temps de ce bilan de l'année internationale, une diplomatie française bousculée cette année par un certain nombre de propos et d'initiatives venues de l'Élysée. D'abord, le virage russe annoncé par Emmanuel Macron devant la conférence des ambassadeurs en août dernier, puis les propos très polémiques du chef de l'État sur l'OTAN dans une interview au journal The Economist, l'Alliance Atlantique qui serait selon lui en état de mort cérébrale. Ajoutons-y une politique européenne parfois peu lisible, un dialogue avec l'Allemagne devenu compliqué, un engagement militaire au Sahel dont la stratégie semble de plus en plus floue, et on arrive à imaginer l'état d'incertitude dans lequel peuvent se trouver les diplomates français au moment où cette année s'achève. On peut se demander quelle est la cohérence, quel est le fil directeur de ces grandes initiatives diplomatiques. Dans son discours aux ambassadeurs, le chef de l'État décrivait le rôle de la France dans le monde comme celui d'une puissance d'équilibre dont la vocation serait de dialoguer avec tous les acteurs. Une vision finalement assez classique au-delà de la forme très volontaire, certains diront disruptive, de la communication présidentielle dans les grands rendez-vous internationaux. Alors pour comprendre ces bouleversements et ces continuités de la diplomatie française, nous sommes avec Bertrand Badi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à Sciences Po et vous avez publié cette année « L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale » aux éditions Odile Jacob. Alors Emmanuel Macron était très visible, très volontariste dans les grands sommets internationaux cette année. On peut se demander, Bertrand Badi, pour quels résultats son coup d'éclat, par exemple, sur l'état de l'OTAN, dont je parlais il y a un instant, n'a pas accouché d'une grande remise à plat des priorités de l'Alliance. Emmanuel Macron a même été très critiqué par Donald Trump. Alors finalement, ses résultats, Bertrand Badi.
Alors vous dites volontarisme, je me demande si ça appartient réellement au vocabulaire de la politique étrangère, pour deux raisons essentielles. D'abord, le propre de la politique étrangère, c'est qu'on ne joue pas tout seul, on joue dans une cour de 193 États, mais aussi avec d'innombrables autres acteurs avec lesquels il est souvent difficile de négocier. Et la deuxième raison, c'est que ce qui caractérise, je dirais, structurellement les politiques étrangères, c'est leur permanence. C'est très rare, si vous observez un pays, de voir des virages à 180 degrés, ça n'existe pratiquement pas, parce que la politique étrangère, c'est le résultat d'investissements longs et qu'il est extrêmement difficile de modifier le cours des choses, sauf, et c'est intéressant de ce point de vue-là, lorsqu'on est la superpuissance américaine, là on assiste depuis la chute du mur de Berlin à des zigzags de politique étrangère aux États-Unis. Il est difficile d'envisager la même chose au niveau français. Alors, Il y a beaucoup d'éléments qui viennent conforter ce que vous dites. Vous parlez de l'OTAN, effectivement, cette formule qui est juste en soi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de l'OTAN. Il y a un véritable problème, en tous les cas, depuis 1989 et la disparition du pacte de Varsovie. Si vous voulez, on y reviendra. Mais effectivement, suite à cette phrase brutale que l'on pouvait considérer comme un électrochoc, un moyen de susciter, d'ouvrir le débat, de faire bouger les lignes, il en est ressorti à l'issue de la conférence de Londres quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire la formation d'une commission au sein de l'OTAN pour réfléchir à quoi sert l'OTAN, ce qui est quand même extraordinaire pour une organisation qui fête ses 70 ans d'âge.
En même temps, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas eu raison, pour aller dans son sens, de demander justement cette clarification à la Turquie, qui se trouve dans une position tout à fait charnière, importante pour l'OTAN, évidemment ce pays est stratégique, mais avec son offensive contre les Kurdes de Syrie, elle se place un peu en porte-à-faux par rapport à ses alliés occidentaux.
Elle illustre l'incohérence non seulement de l'Alliance Atlantique aujourd'hui, mais du principe même d'alliance. On est dans un monde, contrairement à celui dont nous sommes sortis en 1989, qui était un monde de permanence, de structuration, d'opposition d'un bloc contre un autre, nous sommes aujourd'hui dans un monde d'extrême fluidité. Qu'est-ce qui caractérise un monde d'extrême fluidité? C'est la possibilité et souvent la nécessité pour tel ou tel acteur d'agir en fonction d'intérêts qui lui sont propres, mais qui sont pas mécaniquement les intérêts des autres membres de l'alliance auquel il appartient. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de cavaliers seuls, où les initiatives individuelles l'emportent sur les initiatives collectives. Comment voulez-vous qu'il y ait un intérêt commun aujourd'hui dans le monde tel qu'il est entre la Turquie, l'Islande, les Pays-Bas, la Grèce ou le Danemark?
Alors précisément, Bertrand Badie, dans ce monde que vous décrivez, quel est le sens et le rôle des alliances comme l'OTAN encore? Le mot allié a-t-il encore un sens?
Mais c'est là le fond de la question, bien au-delà du problème turc. C'est-à-dire qu'une alliance, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose d'anodin, une alliance. C'est une coalition durable, organisée autour d'un système de valeurs communément partagées et face à un bloc, ou en tous les cas un ennemi commun. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a plus de bipolarité et il n'y a plus de fondement à des coalitions durables. Il y a, comme toujours, et dans l'histoire de l'humanité, toujours fondement de coalition, c'est-à-dire la nécessité face à un problème donné de pactiser avec son voisin, avec un autre État, avec des autres États, pour faire face à la situation au Moyen-Orient, la situation dans les Balkans, la situation au Sahel ou en Méditerranée ou je ne sais où. Mais l'idée que ceci puisse s'organiser autour d'une alliance durable autour de valeurs communément partagées, non, nous ne sommes plus dans cette histoire où effectivement l'Alliance Atlantique représentait l'union de tous ceux qui voulaient contenir la pression soviétique.
Et dans cette Alliance Atlantique, Bertrand Badie, le rôle des États-Unis et cette alliance avec la France est tout à fait important. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas été un peu naïf depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump dans sa façon de considérer qu'on le sera approchant de lui, y compris sur le registre personnel, en ayant un bon contact avec Donald Trump, il pouvait infléchir ses positions. Donald Trump s'est retiré, pour l'instant, a retiré les États-Unis de 3 traités majeurs, l'accord de Paris, le FNI, l'accord sur le nucléaire iranien, et j'en oublie peut-être, est-ce qu'il n'a pas péché par excès de naïveté, Emmanuel Macron, avec Donald Trump?
C'est probablement une interrogation qui pèsera sur le quinquennat, sur ce quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que il fallait voir venir le phénomène Trump. Le phénomène Trump, ce n'est pas un phénomène politico-diplomatique ordinaire. C'est un homme qui a été élu par un électorat qui avait un profil précis et dont l'obsession est de garder le soutien de cet électorat. C'est ce que j'appellerais une diplomatie électorale qui consiste à mobiliser les grands enjeux internationaux, les grandes questions internationales pour nourrir son électorat. Et ça a marché. C'est-à-dire, on voit que, malgré tous les problèmes que rencontrent les États-Unis actuellement, Trump garde son électorat. Dans cette diplomatie électorale, il est évident que les prises de position qui correspondent à cette logique sont infiniment plus importantes aux yeux du président américain que plaire ou satisfaire un allié qui est quand même, même si ça fait de mal à le dire, un allié secondaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas un allié fondamental.
Pour aller dans le sens de ce que vous dites, Bertrand Badie, quand Donald Trump annonçait le retrait américain de l'accord de Paris, il a précisé avoir été élu par les électeurs de Pittsburgh et pas de Paris. Ça, c'est symbolique, finalement, de cette vision, de cette articulation entre des problématiques internationales et nationales selon Donald Trump.
Exactement. C'est le reflet de ce vent néo-nationaliste qui balaye le monde actuellement. C'est, du point de vue des relations internationales, absolument désastreux. Parce que c'est ignorer délibérément et stratégiquement les biens communs de l'humanité pour préférer les biens électoraux. C'est ça le système Trump. Donc ce n'est pas un bon dîner à la Tour Eiffel, comme ce fut le cas le 14 juillet 2017, qui peut faire changer de ligne un homme qui a fait de cette diplomatie électorale sa marque.
Alors, en Europe aussi, les critiques macronistes de l'OTAN ont été très mal vécues. Est-ce qu'on n'a pas éprouvé là, Bertrand Badie, un peu les limites de l'influence française en Europe?
D'abord, on perçoit à travers ces réactions européennes auxquelles vous faites allusion...
Notamment en Europe de l'Est.
Oui, mais regardez en Allemagne aussi. C'était exactement la même chose. On découvre la pathologie profonde dont souffre l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Europe, qui se prétend le vieux continent, l'inventeur par excellence de l'histoire, vit en réalité dans la nostalgie de la guerre froide et du temps de sa vassalité à l'égard des États-Unis. La vassalité de l'Europe à l'égard des États-Unis, c'était un moyen commode de ne pas avoir à trop renforcer ses dépenses militaires. C'était une façon de se reposer sur l'autre pour assurer sa propre sécurité. On râlait comme cela parce que ce n'était pas très noble, ce n'était pas très honorable, mais en réalité, on s'en satisfaisait pleinement. L'idée pour les Européens de devoir prendre en charge leur propre défense, de créer une véritable Europe de la défense, de se séparer de ce parapluie américain, paraît odieuse à bien des acteurs européens. Le mérite d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir montré l'ampleur du défi auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Il l'avait fait d'ailleurs dans d'autres discours, mais son erreur était de penser que on suivrait en Europe. En réalité, et ça c'est quand même très frappant, personne en Europe n'a suivi ce qui n'était d'ailleurs qu'une remarque et un constat de bon sens sur la mort cérébrale de l'OTAN. Alors ne parlons pas de le suivre dans un projet de réforme en profondeur et de construction d'une réelle défense européenne. On voit que plus que jamais, celle-ci est une chimère.
Alors, la qualité du dialogue franco-allemand, Bertrand Badie, a longtemps été un indicateur de la bonne santé du projet européen. Vous parliez de l'Allemagne il y a un instant. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la dégradation de cette relation avec l'Allemagne, le partenaire historique de la France, qui ne semble plus aujourd'hui convenir à personne? Ce dialogue, il est dégradé.
Alors, cette dégradation, elle ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier. Le dernier moment de véritable accomplissement d'un couple franco-allemand, c'était le couple Chirac-Schröder, qui déjà commençait un peu à vaciller par rapport à ce qu'était...
Il avait manifesté un front commun contre la guerre en Irak, notamment.
Oui, voilà. Mais sur le fond, c'est-à-dire dans la durée, hors des enjeux conjoncturels, c'était déjà affaibli. Ça n'a jamais été l'équivalent de ce qu'était Giscard Schmitt ou Mitterrand-Kohl, et ne parlons pas de Gaulle-Adenauer. Pourquoi cela? Je pense qu'il y a un problème de déséquilibre croissant entre l'Allemagne et la France. Ce déséquilibre croissant, c'est l'Allemagne a gagné la bataille économique, devient la superpuissance économique européenne, ce que n'est pas la France, et la France veut compenser en étant la superpuissance militaire européenne. Cette division du travail pouvait paraître, aux yeux de certains, et notamment les derniers présidents, comme rééquilibrante. Mais en réalité, elle est désorganisatrice, parce que on voit là deux acteurs qui suivent et qui même obéissent à deux logiques tout à fait différentes. La logique économique allemande, la logique militaire ou militaro-diplomatique française, ce qui conduit les deux partenaires à s'agacer mutuellement. C'est un dérèglement, c'est un dérèglement profond, mais il y a quelque chose de plus dans cette affaire et qu'il faut bien avoir en tête, c'est la crise de l'hégémonie, c'est-à-dire ce qui caractérisait la France et l'Allemagne, c'est que c'était des coprinces de l'Europe, c'est des co-hégémones de l'Europe. L'hégémonie est de moins en moins supportée. L'entrée des nouveaux États d'Europe centrale et d'Europe orientale en 2004 dans l'Union européenne a créé un réflexe nationaliste en disant nous voulons bien entrer dans l'Europe, mais nous ne voulons pas, nous qui avons été les vassaux de l'Union soviétique, devenir les vassaux de l'Allemagne et de la France. Donc il y a un problème, il y a une crise du leadership européen depuis 2004, je ne suis pas sûr que les présidents français successifs aient su véritablement gérer cette crise du leadership, ni d'ailleurs les chanceliers allemands.
Alors peut-être un dossier qui va encore compliquer cette crise du leadership, c'est le virage russe d'Emmanuel Macron qui a été annoncé dans la conférence des ambassadeurs en août dernier. C'est assez surprenant ce virage russe parce que Emmanuel Macron a commencé par dénoncer un état profond. Alors peut-être vous demandez d'abord ce que vous pensez de cette expression et de l'emploi de cette expression au sujet d'un certain nombre de diplomates qui pourraient être favorables à la Russie peut-être. Et qu'est-ce que ça implique, ce virage vers la Russie? Emmanuel Macron a précisé qu'il le faisait sans naïveté, mais avec réalisme.
Alors, il ne faut pas trop s'en étonner, parce que ça fait partie des paramètres de la politique étrangère française depuis fort longtemps. Vous savez, l'alliance franco-russe elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Elle a plus d'un siècle d'existence. Elle a eu même à surmonter la révolution de 1917, quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, tout en restant fidèle, bien entendu, à l'Alliance Atlantique. Il a eu exactement cette même politique de tenter d'établir un dialogue avec ce partenaire qui appartenait à l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et puis, on a vu relancer cette idée de partenariat. Jacques Chirac, vous faites allusion, vous faisiez allusion tout à l'heure à la guerre américaine en Irak. Il s'est constitué sur cette base un triangle Berlin-Paris-Moscou. Donc, tout ça n'est pas étonnant et tout ça est aussi conforme à ce caractère volontariste de la diplomatie d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire faire des coups. Et effectivement, à un moment où le dialogue avec Moscou est à son point mort, peut-être même pire qu'à son point mort, à son point négatif, le fait que Emmanuel Macron cherche à se refaire une santé diplomatique en tentant de rétablir des passerelles diplomatiques avec Moscou n'a rien de véritablement étonnant.
C'est pas nouveau finalement, Bertrand Badie. On parle de la diplomatie française avec vous ce matin dans les enjeux internationaux et on a finalement le sentiment qu'au-delà de questions de forme, au-delà d'un volontarisme mais qui est peut-être affiché dans les grandes réunions internationales, Emmanuel Macron s'inscrit finalement dans la continuité de ce qu'a été la diplomatie française depuis des années.
Oui, parce que encore une fois, regardez l'histoire de France. Les révolutions diplomatiques dans l'histoire de France sont rares. Le général de Gaulle, en 1958-59, avait essayé effectivement de donner une nouvelle orientation à la politique étrangère française, moins atlantiste, plus tournée également vers le Sud. Mais, mis à part cette rupture, lorsque François Mitterrand, l'opposant de toujours, est arrivé au pouvoir, il n'a pas changé d'un iota la politique étrangère française. Le vrai problème, il est presque ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas tant ce conservatisme de la politique étrangère qui est en question, c'est une certaine cécité sur le monde et ses transformations. C'est-à-dire, continuer à faire comme si nous étions seuls au monde ou, en tous les cas, les grands régents du monde. Et c'est peut-être là que interviendra le vrai changement de politique étrangère, c'est avoir une politique véritablement mondialisée et mondialiste. On en est très très loin.
On en est loin. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est sur ces remarques que l'on conclut cette série d'émissions dans les enjeux internationaux cette semaine avec vous, ce matin, Bertrand Badie. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à Sciences Po.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Quatre enfants, un mari, un lapin, un boulot, travailleuse et mère de famille au bord de la crise de nerfs, la vie trépidante de Brigitte Tornade, en podcast original. Noël approche et c'est l'effervescence chez les Tornades.
Quand même, c'est du chantage ça.
Comment ça du chantage?
Bah, de dire que tu vas téléphoner au Père Noël si Octave mange pas, c'est du chantage.
Guirlandes, sapins et dindes au marron, en tristérie festive, découvert à la banque, prise de bec et angoisse existentielle, tout y est. La vie trépidante de Brigitte Tornade, en podcast original sur franceculture.fr et toutes les plateformes dédiées. Le dimanche à 12h45, Signe des temps, Marc Bitzman.
Les écrivains, les cinéastes, les metteurs en scène envisagent le monde autrement que le font les politiciens, les sociologues et les journalistes. Ils posent d'autres questions et quand ils posent les mêmes, ils les posent différemment.
Dans son essai « L'héritage des Lumières », l'historien Antoine Guilty souligne la complexité du XVIIIe siècle intellectuel et lui rend son actualité critique, invité de Marc Bitzman. Les Lumières peuvent-elles encore éclairer nos débats contemporains? Ce dimanche à 12h45 et sur franceculture.fr.
Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Il est 6h57 sur France Culture, l'heure de retrouver Hervé Gardette. Bonjour Hervé.
Bonjour Antoine Ulster.
Dans votre billet d'humeur aujourd'hui, vous revenez sur le retour en grâce de votre prénom.
Ah oui, car pour une raison qui m'échappe, Hervé est de nouveau à la mode. Elle m'échappe en ceci qu'au palmarès des prénoms disgracieux, il stationne sur une des plus hautes marches du podium. La preuve, je ne connais aucune chanson ni aucun poème qui en ait fait son totem. Alors quitte à porter un prénom breton, j'aurais pu m'appeler Erwan, Gwendal ou Nolwenn, et quitte à avoir celui d'un chanteur à la mode dans les années 60, ça aurait pu être Christophe, Michel ou Dick. peut-être panique. Et il faut croire que mes parents étaient pleinement satisfaits de leur choix, puisqu'ils ne m'en ont laissé aucun. Je n'en ai pas de deuxième. Je dois faire avec, et pas la peine de préciser depuis quand. S'appeler Hervé, c'est porter sa date de naissance sur son front. Vous allez me dire, si ce prénom est de nouveau à la mode, c'est qu'il n'est plus si daté. Sauf que ce n'est pas dans les maternités qu'on se remet à le donner, mais dans les publicités, et toujours pour incarner un être à moitié terminé. J'apprends dans une pub pour un magasin de bricolage qui passe en ce moment à la radio qu'Hervé a deux mains gauches, sachant qu'il est droitier. Dans celle pour un site de Paris sportif, le personnage qui s'appelle Hervé a un potentiel de séduction proche du néant. C'est un gringalet doublé d'un bonnet. On croise encore un Hervé dans le rôle du retraité un peu largué dans une saga publicitaire pour une banque mutualiste. Même le chien dans cette pub est plus malin. « Hervé, lui dit-il, tu comprends vraiment rien. » Jusqu'à la mascotte d'un comparateur d'assurance, un furet qui porte ce prénom. Comment des créatifs ont bien pu se dire un jour « Tiens, on a un furet, on va l'appeler Hervé. » Mais comme souvent, c'est de mon entourage qu'est arrivé le coup de grâce. Une collègue de l'équipe des matins à qui je confiais mon désarroi m'a appris qu'une de ses amies venait d'appeler son chat Hervé. Je préférais quand mon prénom était démodé.
7h-9h, les matins de France Culture. Hervé Gardette.
France Culture, il est 6h59. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et ce matin, nous allons parler de sexe et de sexualité. Avons-nous encore des choses à apprendre au sujet du premier, le sexe, et comment évoluent les représentations de la seconde, la sexualité? Nous en parlerons avec la journaliste Maya Mazorette et avec la sociologue Nathalie Bajos. Et puis vers 9h-20, nous rendrons un hommage au metteur en scène de théâtre Claude Régis. Nous le ferons en compagnie de deux des producteurs de cette chaîne, Arnaud Laporte et Mathilde Serrel. France Culture, il est 7h.